C'est l'Église. Chapitre 1er. L'origine et la position de l'Église. Premièrement, le mot « Église » est tiré d'un terme grec qui signifie « appelé hors de ». L'Église est, en effet, composée de tous ceux qui, croyant au Seigneur Jésus, sont appelés hors du monde pour devenir membres du corps de Christ par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 27.
Or vous êtes le corps de Christ et ses membres chacun en particulier.
Il n'y a plus de distinction entre juifs et nations, car Dieu tire un peuple pour son nom. Acte 15, verset 14, d'entre les juifs et d'entre les nations.
Acte 15, verset 14, Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. 1 Corinthiens 12, verset 13.
Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu une fois pour toutes le jour de la Pentecôte, acte 2. L'histoire de l'Église ici-bas a donc commencé à la Pentecôte et ne s'achèvera qu'au retour du Seigneur, lorsqu'il viendra l'enlever à sa rencontre en l'air. Auparavant, il y avait des croyants dont les noms et l'histoire nous sont rapportés dans l'Ancien Testament, Abel, Hénoch, Abraham, etc. Bien que ces hommes fussent, par anticipation au bénéfice de l'œuvre de Christ, ils n'étaient pas unis en un seul corps. Il y avait bien une nation que Dieu avait mise à part pour lui, le peuple d'Israël, mais la plupart des individus qui la composaient étaient infidèles à Dieu, de sorte qu'il dut les châtier à maintes reprises, et même, pour finir, rompre ses relations avec eux. L'Église est, au contraire, composée exclusivement de rachetés du Seigneur, appelés hors du monde pour être unis en un seul corps par la croix, et former ainsi une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, versets 16 et 22.
Qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
Mais si l'Église est composée seulement de ceux qui sont nés de nouveau, il faut bien entendre que tous les croyants, sans exception, font partie de l'Assemblée de Dieu, même s'ils ne rendent pas témoignage à l'unité du corps de Christ à la table du Seigneur. En effet, cette part est conférée à tous les croyants en vertu de l'œuvre de Christ et de la foi en lui. Elle ne dépend pas de la fidélité ecclésiastique. Cependant, il est évident que le racheté subit une perte lorsqu'il se tient éloigné de la table du Seigneur. Ainsi, toutes les âmes que Dieu appelle hors du monde se trouvent, dès leur nouvelle naissance, unies par l'Esprit entre elles et au Seigneur Jésus glorifié, constituant ainsi le corps de Christ sur la terre. Deuxièmement, la première mention de l'Église se trouve en Matthieu 16. Le Seigneur demande à ses disciples
« Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?»
Aucun ne le connaissait ni ne savait distinguer en lui le Fils de Dieu, le Messie promis.
« Et vous ?»
ajoute alors Jésus.
« Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, répondant, lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, répondant, lui dit « Tu es bienheureux, Simon Barjonas. » Car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Versets 13 à 18.
Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant, était ce rocher sur lequel il allait bâtir son assemblée. Celle-ci serait ainsi fondée sur celui qui a vaincu la mort et brisé les portes du Hadès. Elle n'aurait donc rien à craindre du pouvoir de la mort. Remarquons encore que le Seigneur déclare « Je bâtirai mon assemblée ». C'était donc à ce moment-là une chose encore future, une œuvre à venir qui exigerait sa mort sanglante à la croix, sa résurrection, son assomption et la venue du Saint-Esprit ici-bas. L'Église est donc bâtie non seulement sur Christ, mais sur Christ mort et ressuscité. Par sa mort, il a expié nos péchés. Par sa résurrection, il a annulé la mort. Puis, étant monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Jean 16, verset 7.
Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
L'Église a été formée par l'union en un seul corps de tous ceux qui ont cru en son nom. Dieu avait de toute éternité formé le dessein de manifester, maintenant, sa sagesse par le moyen de l'Église aux autorités et aux principautés dans les lieux célestes. Nous lisons en effet en Éphésiens 3, verset 10,
« Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l'Assemblée, selon le propos des siècles. »
Mais il voulait aussi montrer ainsi à tous, dans les siècles à venir, les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 7.
Afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus.
Troisièmement, l'Église est donc, par son essence même, hors du monde et sa destinée est céleste. Séparée du monde, elle n'a pas d'objet sur la terre pour son cœur, mais cet objet est dans le ciel. Dès maintenant, ceux qui ont le bonheur de faire partie de l'Assemblée de Dieu sont donc invités à se souvenir que leur part est céleste, savoir, petit a, leur bénédiction.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3.
Petit b, leur position.
Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 6.
Petit c, leur héritage.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous. 1 Pierre 1, versets 3 et 4.
Petit dé, leur nom.
Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, verset 20.
Petit e, leur bourgeoisie.
Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Philippiens 3, verset 20.
Petit f, l'objet de leurs pensées et de leurs affections.
Cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 1 et 2.
Petit g, leur espérance. Partager sa gloire et lui être semblable.
Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Jean 17, verset 24. Nous savons que, quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 1 Jean 3, verset 2.
Ainsi, à la différence d'Israël, dont les bénédictions sont terrestres, l'appel et l'espérance de l'Église sont essentiellement célestes. Bien que composée d'hommes tirés de tout peuple, langues et nations, elle constitue un peuple nouveau qui n'est pas du monde, mais appelé hors du monde, et que Dieu
a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, verset 6.
Dans quelle mesure les chrétiens ne sont-ils pas du monde? Le Seigneur lui-même répond,
ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, verset 16.
Ainsi, l'origine même de l'Église est entièrement différente de celle d'Israël. Celui-ci avait été choisi par Dieu comme peuple parmi les autres peuples de la terre. Les rachetés de l'économie actuelle sont appelés individuellement, étant morts et ressuscités avec Christ. Par la foi au nom de Jésus, nous sommes nés de Dieu par l'Esprit Saint et devenons ainsi une nouvelle création, participant de la nature de celui qui nous a régénérés, engendrés de nouveau.
tel qu'est le céleste,
Christ,
tels aussi sont les célestes.
Les rachetés, 1 Corinthiens 15, verset 48. Comme Adam a été le chef d'une race d'hommes pécheurs, Christ, le dernier Adam, est le chef d'une nouvelle race qui, semblable à lui, est composée d'êtres célestes, de citoyens des cieux,
concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, Éphésiens 2, verset 19.
Quatrièmement, nous sommes ainsi dans une relation infiniment plus intime avec le Seigneur que ne l'était Israël avec Dieu. Les images dont se sert le Nouveau Testament pour exprimer cette relation entre Christ et l'Assemblée font ressortir cette différence. Certes, dans l'Ancien Testament, le Seigneur manifeste aussi sa grâce, sa fidélité et sa sollicitude envers son peuple Israël. Cependant, il reste avant tout le roi qui sauvegarde ses droits si souvent méprisés. Dans le Nouveau Testament, en revanche, nous trouvons l'image d'un corps dont Christ est la tête, image qui fait ressortir l'union indissoluble qui lie les rachetés à Christ et Christ aux rachetés, membres de ce corps. Parmi les passages qui expriment cette précieuse vérité, nous citerons les suivants.
Dieu l'a donné pour être chef,
c'est-à-dire tête,
sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, versets 22 et 23.
Remarquez la force de cette expression désignant l'assemblée comme étant la plénitude de Christ, c'est-à-dire son complément.
Et il,
le fils de son amour,
est le chef,
ou la tête,
du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. Colossiens 1, verset 18.
Voir également Colossiens 2, verset 10 et 19.
Et vous êtes accomplis en lui qui est le chef de toute principauté et autorité. Ne tenant pas ferme le chef duquel tout le corps alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens croît de l'accroissement de Dieu. Car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, versets 12, 13 et 27.
Cette image dont se sert l'apôtre Paul pour désigner l'Église, le corps de Christ, fait ressortir d'une manière particulièrement expressive la force et la nature du lien qui unit l'Église à Christ. Ce n'est pas une simple relation, mais bien une union vitale. Un corps privé de tête est mort, et rien ne peut remplacer cet élément constitutif. D'autre part, la tête conduit le corps, c'est elle qui commande. Il y a relation de subordination. Enfin, tête et corps vivent de la même vie, participent aux mêmes peines et aux mêmes joies, sont, en un mot, indissolublement unis. Tel est bien le cas de Christ, tête glorifiée dans le ciel, et de l'Église, son corps sur la terre, uni par un même esprit.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, Éphésiens 4, verset 4.
C'est ce qui explique que le Seigneur pouvait dire à Saul sur le chemin de Damas,
« Je suis Jésus que tu persécutes », acte 9, verset 6.
En effet, il considérait ses rachetés, que Saul persécutait, comme unis à lui. Une autre image dont la parole se sert pour faire ressortir la merveilleuse intimité et la force du lien qui unit le Seigneur à son Église est celle d'un époux et d'une épouse. Le mari est le chef,
ou la tête,
de la femme, comme aussi le Christ est le chef,
ou la tête,
de l'Assemblée, lui le sauveur du corps. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Éphésiens 5, versets 23 à 30. Merveilleux amour du céleste époux pour l'épouse qu'il a acquise au prix de son sang versé à la croix. Combien nous comprenons le désir de son cœur d'introduire auprès de lui, dans sa propre gloire, cette épouse bien-aimée. Son bonheur pourrait-il être parfait et son amour satisfait s'il n'avait avec lui pour toujours celle qui est chair de sa chair et os de ses os, et aussi la perle de très grand prix pour laquelle il a tout sacrifié? Certes non, mais l'épouse, elle aussi, aspire de tout son être à cette union avec son glorieux et divin époux, en répondant avec l'esprit « Viens » lorsqu'elle l'entend dire
« Je viens bientôt ». Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.
La parole emploie encore une autre image pour désigner l'assemblée, une maison spirituelle composée de pierres vivantes,
duquel,
c'est-à-dire le Seigneur,
vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, versets 4 et 5.
C'est sur un Christ rejeté du monde que repose l'Église. Il n'est donc pas surprenant que l'Église soit, à son tour, méprisée et rejetée par le monde, partageant ainsi la portion de son chef. Cette comparaison de l'Église avec un édifice se trouve en plusieurs autres passages. Tous les rachetés sont gens de la maison de Dieu, dont Jésus-Christ lui-même est la maîtresse pierre du coin,
en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, versets 20 à 22.
Il s'agit de l'assemblée bâtie sur le roc inébranlable, dont Christ parle lui-même en Matthieu 16, verset 18.
« Et moi aussi je te dis que tu es pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. »
Tous ces termes font ressortir la stabilité et la pérennité de l'Église, contre laquelle les portes du Hadès ne prévaudront pas. Édifiée par Christ, vainqueur de la mort, elle n'a rien à redouter malgré la haine de Satan et du monde. Mais si, maintenant, l'Église est associée à la réjection de Christ dans le monde, elle partage aussi sa gloire par la foi, en attendant d'y entrer en pleine réalité. Son titre d'épouse lui confère une part à l'héritage de l'époux, c'est-à-dire à sa gloire, à l'exclusion de sa gloire personnelle et essentielle comme fils de Dieu, cela va de soi. Position unique et bénie qui lui donne une prééminence sur les saints des autres économies et qui procède de son union avec Christ. De cette union découlent aussi des affections réciproques, une communion de cœur et d'esprit, une joie mutuelle que ne peuvent connaître ni éprouver les saints des autres économies. Quelle grâce merveilleuse pour de pauvres pécheurs que d'être introduits dans une telle position. Cinquièmement, cela nous amène à considérer encore ce que Christ fait maintenant pour son Église. En effet, si celle-ci est vue dans sa perfection en Christ, d'un autre côté, elle est préparée sur la terre pour le jour glorieux de sa rencontre avec Christ dans le ciel. Cette préparation est l'œuvre du Seigneur qui, par le Saint-Esprit, lui communique les grâces indispensables à l'accroissement du corps et la purifie de toute souillure par le lavage d'eau, par la parole. Ainsi, l'Église n'est pas un organisme pétrifié, mais un corps vivant qui croit et qui, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour, Éphésiens 4, verset 16. À cet effet, Christ accorde tous les dons et confie tous les ministères pour édifier et nourrir son assemblée, Éphésiens 4, verset 7 à 16 et 1 Corinthiens 12.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce? Sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplit toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour.
Le but final, la perfection absolue, ne sera atteint qu'au ciel, où tous ceux qui composent l'Église auront revêtu un corps glorieux, semblable à Christ. Alors elle apparaîtra dans toute sa beauté comme sainte cité, nouvelle Jérusalem, épouse de Christ et habitation de Dieu, Apocalypse 21. Mais toutes ces perfections seront le fruit du travail et de l'amour de Christ. Chapitre 2. Les caractères et les fonctions de l'Église. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, quelles étaient l'origine et la position de l'Église. Nous allons examiner maintenant ses caractères et sa mission sur la terre. Pourquoi l'Église est-elle ici-bas et quel caractère doit-elle manifester? Quelles sont ses fonctions? Tout comme le chrétien individuel est appelé à glorifier Dieu en glorifiant Christ, l'Église n'a pas d'autre vocation, et toutes ses attributions, tous les caractères qu'elle doit manifester visent à ce but élevé. Premièrement, le premier caractère de l'Église est la sainteté.
Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18 et 7, verset 1.
Unis étroitement et indissolublement à son Seigneur, l'Église ne peut faire autrement que posséder ses caractères propres, dont le premier est la sainteté. Il importe que nous réalisions ce caractère dans notre marche quotidienne. Deuxièmement, un deuxième caractère que l'Église de Christ possède et est appelée à manifester est son unité.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, Éphésiens 4, verset 4. Nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement, membre l'un de l'autre, Romains 12, verset 5. Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13.
L'Église est donc une. Christ n'a qu'une épouse, dont font partie tous ses bien-aimés rachetés, quelle que soit la manière dont ils réalisent leur position ecclésiastique. Un petit nombre d'entre eux seulement, hélas, ont compris cette vérité et rendent témoignage de cette unité à la table du Seigneur. Troisièmement, un troisième caractère de l'Église de Christ, c'est la présence en elle du Saint-Esprit. Ce caractère est particulièrement important à considérer, car c'est de cette présence du Saint-Esprit dans l'Église que découle sa sainteté et son unité. Il y a eu des rachetés sur la terre avant la descente du Saint-Esprit, des âmes réveillées par l'Esprit manifestaient la vie et le fruit de l'Esprit. Elles étaient donc nées de l'Esprit, comme les rachetés de l'économie actuelle. Cependant, c'est la descente du Saint-Esprit en tant que personne de la Trinité, le jour de la Pentecôte, qui forma l'Église. Auparavant, les croyants étaient dispersés, et il fallut la mort et la résurrection de Christ, suivie de la Pentecôte, pour qu'ils fussent rassemblés en un.
Jean 11, verset 52. Il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés.
Envoyé par le chef glorifié de l'Église, le divin Consolateur put alors animer, gouverner, sanctifier et unir les membres de la famille de Dieu, comme il fait aujourd'hui encore.
L'Esprit de vérité demeure avec vous et sera en vous. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Jean 14, versets 17 et 26. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 et 14.
Il fallait donc, pour unir les rachetés en un seul corps, la puissance du Saint-Esprit, le divin Consolateur, lequel ne pouvait toutefois venir avant que Christ fût glorifié. Nous trouvons, dans le deuxième chapitre des Actes, le récit de la descente du Saint-Esprit et de l'union des premiers chrétiens constitués en un corps, l'Église. Ce corps pouvait paraître bien insignifiant, puisqu'il ne comptait initialement que 120 disciples environ.
Acte 1, verset 15. Et en ces jours-là, Pierre se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120.
Mais l'Esprit manifeste aussitôt sa puissance par la prédication de Pierre, et environ 3000 âmes furent baptisées au nom de Jésus.
Chapitre 2, verset 41. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes.
Le chapitre s'achève d'ailleurs par ces mots.
Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée,
ou l'Église,
ceux qui devaient être sauvés, verset 47.
Ainsi fut formée l'Église par l'Esprit, qui a continué au cours des âges, et continue aujourd'hui encore à édifier ce corps de Christ, jusqu'au jour où le dernier des élus ayant été manifesté, Christ viendra chercher son épouse bien-aimée pour l'introduire dans sa propre gloire. Quatrièmement, l'Église est, sur la terre, la dépositaire de la vérité, ainsi que nous le lisons en 1 Timothée 3, verset 15, où elle est appelée
l'Assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité.
Possédant la parole et le Saint-Esprit, l'Église a reçu la vérité, la manifeste publiquement et la maintient intacte, en dépit des efforts de Satan pour l'altérer ou la faire tomber dans l'oubli. Il y a lieu de relever, à ce propos, que si l'Église est la colonne et le soutien de la vérité, elle n'est pas elle-même la vérité. La vérité ne procède pas d'elle, mais de Christ.
Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie, Jean 14, verset 6.
la vérité procède de la parole.
Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité, Jean 17, verset 17.
La vérité procède de l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité, 1 Jean 5, verset 7.
Il n'est dit nulle part que l'Église ou l'Assemblée soit la vérité, mais elle la défend et la manifeste, de manière que la vérité soit vue en elle. Cinquièmement, parmi les caractéristiques de l'Église, il convient de citer un cinquième fait, savoir la place spéciale qu'elle occupe dans les desseins de Dieu. Bien qu'elle eût été appelée la dernière dans l'accomplissement de ses desseins, elle existait de toute éternité dans sa pensée et dans son conseil.
Selon qu'il nous a élus en lui,
c'est-à-dire en Christ,
avant la fondation du monde, Éphésiens 1, verset 4.
Ce mystère est appelé le
mystère caché dès les siècles en Dieu, chapitre 3, verset 9.
Mais il nous a été révélé, et l'instrument choisi pour cela fut l'apôtre Paul.
Éphésiens 3, versets 3 à 5. Comment, par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit.
Précédemment, il n'avait pas été donné à connaître au Fils des hommes. En effet, on ne trouve aucune révélation concernant l'Église dans l'Ancien Testament, à la différence des conseils de Dieu touchant la venue de Christ sur la terre, de ses souffrances, de sa réjection, de sa mort, de sa résurrection, de son règne, des bénédictions du millénium. Ces conseils-là se trouvent révélés clairement dans l'Ancien Testament. Rien de semblable quant à l'Église, dont le mystère était resté caché en Dieu et ne fut dévoilé par l'Esprit qu'aux apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Ce mystère consistait en ceci,
que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Éphésiens 3, verset 6.
C'est celui de l'appel distinct et de la gloire spéciale de l'Église, savoir son unité vivante en Christ par le Saint-Esprit et sa part glorieuse d'épouse de Christ. Dès maintenant, l'Église est bénie
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3.
Tandis que, comme nous l'avons déjà dit, Israël recevait des bénédictions temporelles. Deutéronome 28, verset 1 à 14.
Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis, qui s'élèveront contre toi, seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, et dans tout ce à quoi tu mettras la main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main, et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas, et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'Éternel ton Dieu que je te commande aujourd'hui, pour les garder et les pratiquer, et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir.
De même, les promesses qui sont faites à ce peuple en rapport avec le millénium annoncent une prospérité matérielle extraordinaire.
Ézéchiel 34, versets 23 à 31. Et je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra, mon serviteur David. Lui les paîtra, et lui sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et je ferai avec eux une alliance de paix, et je mettrai fin aux bêtes mauvaises dans le pays, et ils habiteront dans le désert en sécurité, et dormiront dans les forêts. Et d'eux et des alentours de ma colline je ferai une bénédiction, et je ferai tomber la pluie en son temps, ce seront des pluies de bénédiction. Et l'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera son rapport, et ils seront dans leur terre en sécurité. Et sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai brisé les liens de leurs joues et que je les aurai sauvés de la main de ceux qui les tenaient asservis. Et ils ne seront plus en proie aux nations, et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Mais ils habiteront en sécurité, et il n'y aura personne qui les effraie, et je leur susciterai un plan de renom, et ils ne seront plus enlevés par la famine dans le pays. Et ils ne porteront plus l'ignominie des nations. Et ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux, et que, la maison d'Israël, ils sont mon peuple, dit le Seigneur l'Éternel. Et vous, mon troupeau, le troupeau de ma pâture, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel.
Les bénédictions de l'Église sont d'une toute autre nature, car elles découlent de son union avec un Christ ressuscité et glorifié. Ces bénédictions, qui sont la part de chacun des rachetés, ne peuvent être toutes énumérées et nous nous bornerons à en citer les principales, toutes étant également précieuses. Petit a. La rédemption. Nous avons été rachetés,
non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1, verset 18-19, en qui nous avons la rédemption par son sang, Éphésiens 1, verset 7.
Petit b. Le pardon des péchés.
En qui nous avons la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, Éphésiens 1, verset 7. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, Colossiens 2, verset 13.
Petit c, l'acceptation.
Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6, car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, Hébreux 10, verset 14.
Petit d, l'adoption.
Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1, verset 5. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », Romains 8, verset 15. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père », Galates 4, verset 6.
Petit e, l'hérédité avec Christ.
En lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, Éphésiens 1, verset 11. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, Romains 8, verset 17. Tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier aussi par Dieu, Galates 4, verset 7.
Petit f, le sceau du Saint-Esprit.
Auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, Éphésiens 1, verset 13. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs, de Corinthiens 1, versets 21 à 22.
Petit g, la connaissance de la pensée et de la volonté de Dieu.
Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il s'est proposé en lui-même, Éphésiens 1, verset 9.
Ces bénédictions, l'Église les trouve dans les lieux célestes, où Christ est maintenant entré, et non point sur la terre, où il a été rejeté et mis à mort. Sixièmement, Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent que l'Église était considérée comme
une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5.
Si nous relevions alors la comparaison de l'Église avec un édifice solide et inébranlable, nous voulons mettre maintenant l'accent sur sa position de sainte sacrificature, qui implique le service de la louange et de l'adoration. Privilège combien élevé et précieux.
Écoute, fille, et vois, et incline ton oreille, et oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur, adore-le. Psaume 45, versets 10 et 11.
Christ, sujet et objet, avec le Père, de cette adoration, est présent au milieu de l'Église, ne fut-elle représentée que par les deux ou trois réunis en son nom.
À lui gloire dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, verset 21.
L'Église rend culte à Dieu le Père par Jésus, qui entonne lui-même la louange au milieu de ses rachetés réunis autour de sa table. C'est, en effet, dans l'Assemblée que se trouve la table du Seigneur, et c'est à cette table que l'Église célèbre la scène, ce précieux mémorial des souffrances et de la mort de Christ. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Septièmement, un septième caractère de l'Église consiste en ce qu'il n'existe plus aucune des distinctions terrestres entre ceux qui la composent. Il y avait, autrefois, une différence considérable entre Juifs et nations, différence établie par Dieu lui-même, qui voulait faire d'Israël son peuple particulier. Les Juifs étaient donc le peuple de Dieu, tandis que les nations étaient sans Dieu dans le monde. Depuis la constitution de l'Église, cette distinction, qui était liée au gouvernement de Dieu quant à la terre, a entièrement disparu.
Dieu a renfermé tous, Juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Romains 11, verset 32.
La grâce s'adresse donc aussi bien aux pécheurs des nations qu'aux ressortissants d'Israël, et même si, au début de son existence, l'Église se composait de chrétiens juifs, elle n'en a pas moins aboli entièrement la distinction entre juifs et nations qui subsistait précédemment. C'est pourquoi l'apôtre, s'adressant aux Éphésiens, pouvait leur dire
« Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. » Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux,
c'est-à-dire des Juifs et des nations,
en a fait un, et a détruit le mur mitoyen de clôture, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu, par la croix, car par lui nous avons les uns et les autres,
c'est-à-dire les rachetés juifs et les nations,
accès auprès du Père par un seul esprit. Ephésiens 2, verset 13 et suivant.
Cet homme nouveau, c'est le corps de Christ, dont les rachetés juifs et des nations sont membres sans aucune distinction dans leur position. Ils n'ont qu'un seul et même titre à invoquer, celui de pécheurs sauvés et rachetés par le sang de Jésus, devenus ainsi membres de Christ. Si tous les croyants réalisaient leur position, cette unité totale en Christ, ils ne pourraient laisser subsister les différences qu'ils ont créées entre eux et qui se traduisent par d'innombrables dénominations. Alors que la croix de Christ a détruit le mur mitoyen qui séparait juifs et nations, les hommes ont établi des cloisons de toutes sortes, trahissant ainsi le caractère fondamental de l'Église, savoir son unité en Christ. Mais malgré l'infidélité de l'homme, cette unité subsiste, car elle découle de l'œuvre de Christ à la croix, grâce à laquelle l'Esprit de vérité put être envoyé sur la terre afin de baptiser en un seul corps tous les rachetés. Du reste, comme nous l'avons déjà vu, les soins de Christ pour son Église ne cessent point. Il la purifie par le lavage d'eau par la parole, afin de la rendre parfaite pour le jour très proche, où il se la présentera à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ephésiens 5, versets 26 et 27.
Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Chapitre 3. L'espérance de l'Église.
Au moment de quitter les siens, le Seigneur leur dit :
Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3.
Le Seigneur a donné ainsi aux siens une espérance glorieuse, celle de son prochain retour. Telle est l'espérance de l'Église. Écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul leur dit :
Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10.
Lire également Philippiens 3, verset 20.
Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur.
1 Corinthiens 1, verset 7.
De sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tite 2, verset 13.
Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Jude 21.
Conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Le racheté a donc une double mission à remplir ici-bas, servir Dieu et attendre la venue du Seigneur. Cette espérance a diverses conséquences pour l'enfant de Dieu. La certitude d'être bientôt auprès du Seigneur, dans la joie de sa présence et dans la gloire de la maison du Père, délivré des épreuves de la terre, nous remplit de joie. Mais l'attente de son retour a un effet sanctifiant sur nos vies.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. 1 Jean 3, versets 2 et 3.
Nous trouvons dans le Nouveau Testament de nombreuses et sérieuses exhortations concernant la manière dont nous devons attendre le Seigneur, non point en théorie seulement, mais pratiquement et de façon vivante. Ce que l'Église attend, ce n'est pas seulement un événement, mais aussi une personne, le Seigneur Jésus, tel que la parole le révèle, tel aussi que chacun de nous apprend à le connaître dans la communion journalière avec lui. Le chrétien qui vit près de son Sauveur jouit de lui toujours davantage et réalise mieux chaque jour que Christ est sa vie, sa paix, sa joie, son tout. Et pourtant il ne l'a jamais vu, et c'est seulement par la foi qu'il le connaît, qu'il jouit de lui. Aussi est-il compréhensible et normal que plus il le connaît et plus il jouit de lui, plus aussi il désire le voir.
Lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. 1 Pierre 1, versets 8 et 9.
Cette joie ineffable et glorieuse est la part du croyant dès maintenant. Mais voir Christ, lui être semblable, contempler sa gloire auprès du Père, paraître avec lui en gloire lorsqu'il viendra pour établir son règne, régner avec lui, être associé à lui lorsque tous lui rendront hommage et fléchiront le genou devant lui, voilà notre espérance, voilà l'espérance de l'Église. C'est pourquoi l'épouse s'associe à l'Esprit en Apocalypse 22, verset 17, pour exprimer son ardent désir de voir son Seigneur.
Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ».
Et, plus loin encore, lorsque le Seigneur répète
« Oui, je viens bientôt »,
l'Église répond de nouveau
« Amen, viens Seigneur Jésus », verset 20.
Touchant dialogue qui traduit bien la sainte attente de l'épouse d'être enfin unie à son bien-aimé dans la gloire. Mais, ne l'oublions pas, c'est dans le cœur des croyants que cette précieuse espérance doit être constamment entretenue. Aussi est-il écrit
« Que celui qui entend dise « Viens ».
Il y a donc identité parfaite entre l'espérance de l'Église et celle du racheté. La réalisation de l'espérance individuelle du croyant lui apportera tout ce qu'il aura attendu, mais elle apportera aussi à l'Église la félicité et la gloire qui lui sont promises en tant qu'épouse de Christ. Elle attend, en effet, le Seigneur comme l'époux bien-aimé qui l'enlèvera à sa rencontre et l'introduira dans la gloire du ciel pour les noces de l'agneau, et non comme le Fils de l'homme qui va venir exécuter les jugements contre ses ennemis. Elle a donc la certitude que le Seigneur Jésus ne viendra pas pour elle comme un juge, mais que, lorsqu'il apparaîtra en gloire comme tel, elle lui sera associée, participant à son triomphe sur ses adversaires et partageant ses gloires. Elle sera le reflet de sa magnificence,
quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, des Thessaloniciens 1, verset 10.
Elle attend aussi l'apparition de Christ en gloire, car elle sait que ce jour amènera la délivrance de la création, du joug du péché, et le règne de la justice et de la paix sur la terre.
Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu, car la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, versets 19 à 21.
Mais l'attente de l'Église va plus loin encore, car elle sait que Satan sera lié pour 1000 ans et enfermé dans l'abîme, et que le monde sera converti, Israël restauré, la souveraineté de Christ reconnue de tous, d'où découleront d'immenses bénédictions pour l'humanité. Celle-ci goûtera enfin la justice, la paix et la joie qu'elle n'a pu instaurer elle-même, et que Christ seul lui apportera lorsqu'il établira son règne, règne auquel l'Église sera associée comme l'épouse du roi de gloire. Unis à Christ dans l'exercice du pouvoir, nous aurons l'honneur insigne d'être les instruments par lesquels il manifestera sa gloire, distribuera sa munificence royale, exercera sa justice, répandra sa bénédiction. Mais ce qui réjouira le cœur de l'épouse davantage encore, ce sera la présence même de l'époux, car c'est lui qui est notre espérance.
1 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance.
Sans lui, le ciel ne serait pas le ciel, a-t-on dit. Oui, ce que le chrétien attend, ce que l'Église attend, c'est le Seigneur lui-même. Puissent nos cœurs être réellement remplis de cette attente, au point que les choses de la terre perdent tout attrait pour nous. Que la joie produite par cette espérance efface aussi tous les chagrins dont notre sentier terrestre est si souvent semé, et qu'ainsi nous courions avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui, avant de clore le Saint-Livre, nous adresse ses ultimes paroles d'encouragement.
Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt ».
Que chaque saint unisse sa voix à celle de l'Esprit et de l'Église et s'écrie avec ferveur « Amen, viens Seigneur Jésus ».Chapitre 4. L'histoire de l'Église professante et responsable sur la terre. Dans ce chapitre, nous étudierons l'histoire de l'Église responsable sur la terre et comprenant tous ceux qui professent le christianisme. Parmi ces professants figurent de vrais chrétiens et des gens qui, tout en portant le nom de chrétiens, ne sont pas vraiment des disciples de Christ. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse nous donnent un aperçu de cette histoire qui s'achèvera par la réjection de l'Église professante après la venue du Seigneur. Cette Église professante subsistera quelque temps encore après l'enlèvement des vrais croyants et finira par être entièrement détruite par la bête, savoir le chef de l'Empire romain reconstitué.
Apocalypse 17. Versets 16 et 17. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, et d'exécuter une seule et même pensée, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
Et ces événements, qui sont postérieurs au retour du Seigneur, feront l'objet de notre étude dans la troisième partie de ce travail. Pour l'instant, nous examinerons seulement ce qu'est devenu l'Église responsable ici-bas, et ce qu'il adviendra d'elle jusqu'au retour du Christ. Hélas, l'Église ne tarda pas à abandonner son premier amour et à présenter des signes de son déclin. Ce déclin est décrit dans les lettres aux sept assemblées d'Asie, Apocalypse 2 et 3. Ces sept assemblées, qui existaient réellement, furent choisies par le Seigneur parce que leur état spirituel donnait une image complète de l'histoire de l'Église ici-bas jusqu'à sa venue. En les étudiant, nous pouvons donc découvrir ce que la parole annonce sur l'évolution de l'Église, ou des systèmes ecclésiastiques qui se réclament de ce nom. Premièrement, la première assemblée à laquelle le Seigneur s'adresse est celle d'Éphèse, qui manifeste les caractères de l'Église à la fin du ministère des apôtres. Le déclin, qui avait déjà commencé au temps des apôtres, s'est accentué après leur départ, bien qu'il y eût encore de la fidélité et de l'activité pour le Seigneur. Celui-ci se plaît à le reconnaître.
« Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. »
Il n'oublie pas non plus de mentionner le dévouement et la persévérance dont cette assemblée faisait preuve et qui caractérisèrent de fait l'Église durant la période que nous venons de préciser.
« Tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. »
Toutefois, le Seigneur doit relever aussi ce qui le déshonore et constitue la cause secrète du déclin.
« Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. »
Telle fut la cause initiale qui amena peu à peu la ruine de l'Église. Christ cessa d'occuper dans les cœurs la place qui lui revenait, et cet abandon du premier amour ouvrit la porte à tous les égarements qui se produisirent par la suite au sein de l'Église. Deuxièmement, pour arrêter ce déclin, le Seigneur dut permettre les persécutions contre son assemblée. C'est ce qu'il annonce à Smyrne, qui symbolise l'état de l'Église durant la période des persécutions organisées par la Rome impériale. Mais le Seigneur encourage ses rachetés.
Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Chapitre 2, verset 10.
Pergame nous présente l'étape suivante de l'histoire de l'Église, époque caractérisée par l'établissement du trône de Satan au sein de la chrétienté. Ce trône de Satan, c'est le trône impérial qui, sous Constantin Ier, 274-337, se déclara le protecteur de la religion chrétienne, devenue religion officielle de l'Empire, édit de Milan, 313. Le Seigneur, tout en constatant que l'Église habitait là où était le trône de Satan, c'est-à-dire s'était placée sous la protection du pouvoir humain, reconnaît néanmoins la fidélité des siens durant cette période.
« Tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi », verset 13.
De fait, c'est à cette époque que le concile de Nicée, 325, convoqué sur l'ordre de l'empereur, établit et promulgua le dogme de la Trinité et publia le symbole de Nicée, dont l'objet était d'affirmer la divinité de Christ. Certes, les croyants n'avaient et n'ont aujourd'hui encore aucunement besoin de ces confirmations humaines des vérités révélées dans la parole de Dieu. Cependant, nous pouvons bénir Dieu de la miséricorde dont il usait en sauvegardant par ce moyen, face aux attaques de Satan, la vérité fondamentale de la divinité de Christ. Hélas, à côté de cela, le monde, les fausses doctrines et l'incrédulité pénétrèrent de plus en plus au sein de l'Église, où le ministère devint l'apanage d'un groupe d'hommes, le clergé, qui en tirèrent profit. Et même les témoins fidèles furent persécutés et mis à mort au milieu de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur lui adresse un sérieux avertissement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Verset 16. Quatrièmement, l'état de l'Église au Moyen-Âge est décrit sous les traits qui caractérisaient Thyatire, à laquelle le Seigneur s'adresse en ces termes.
« Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. » Verset 19.
Bien que les ténèbres de l'ignorance régnassent durant le Moyen-Âge, quant aux vérités essentielles du christianisme, on y trouve de nombreux témoignages d'amour et de dévouement envers le Seigneur.
« Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. » Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Verset 20.
C'est la forme romaine de l'Église où le clergé s'arroge le droit de parler au nom de Dieu, Jézabel se dit prophétesse, et prétend posséder une autorité qui lui permettrait de promulguer des dogmes dérogeant aux saintes Écritures. C'est ce que fit et fait encore l'Église catholique. Le Seigneur prononce un jugement inexorable contre pareille hérésie, versets 21-23.
Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres.
Mais, même au milieu de cet état de choses, il y a un témoignage pour le Seigneur, composé d'âmes qui n'ont pas pactisé avec le mal, un résidu demeuré fidèle au nom de Christ. Le Seigneur s'adresse spécialement à ce résidu en des termes pleins de grâce.
Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Versets 24 et 25.
Suivent les précieuses promesses faites à celui qui vaincra et sera fidèle jusqu'à la fin. Ces quatre premières assemblées d'Asie auxquelles le Seigneur s'adressait par l'intermédiaire de l'apôtre Jean nous donnent ainsi un tableau complet de la chrétienté jusqu'à la venue de Christ. Nous avons eu d'abord la description de l'état général de l'Église au début de son déclin, puis l'époque des persécutions suscitées par la Rome païenne, ensuite l'Église cherchant la protection du pouvoir politique et s'alliant au monde, enfin le romanisme qui subsistera jusqu'à la fin. Cinquièmement, les trois dernières des sept assemblées, dont l'état nous est décrit au chapitre 3 de l'Apocalypse, nous présentent également des phases successives de l'Église, mais subsistant ensemble jusqu'à la fin, en même temps que Thyatire. La première est Sardes, à laquelle le Seigneur s'adresse en ces termes.
« Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Versets 1 et 2.
Nous avons là une description exacte du protestantisme actuel qui a le nom de vivre, mais est mort. Il ne s'agit point de la réformation qui, malgré les faiblesses des hommes dont Dieu se servit pour l'accomplir, remit en lumière la parole de Dieu, plongée dans l'oubli durant le Moyen Âge. C'est pourquoi le Seigneur invite les représentants actuels de ce mouvement à retourner aux origines.
Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Verset 3.
Du reste, il se plaît à reconnaître les âmes fidèles qui se trouvent encore au milieu de cet état de choses.
Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Verset 4.
Sixièmement, Philadelphie est l'image des rachetés qui, hors des systèmes ecclésiastiques représentés par Thyatire et Sardes, animés de l'amour fraternel, Philadelphie signifie l'amour des frères, garde la parole du véritable et ne renie pas le nom du saint, malgré la faiblesse qui les caractérise. Mais le Seigneur y supplée.
J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 8.
À la différence de Sardes, qui avait accompli jadis de grandes œuvres, Philadelphie n'a rien fait qui attire l'attention du monde et provoque l'admiration des hommes. Néanmoins, le Seigneur reconnaît ce qu'elle fait.
Je connais tes œuvres. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom.
Apparemment, c'est peu de choses. Et pourtant, rien n'est plus précieux au cœur du Seigneur que de voir ses rachetés garder sa parole et ne pas renier son nom. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. La récompense promise à la fidélité de Philadelphie est bien propre à accroître son zèle.
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Verset 10.
L'Église, composée de tous les rachetés du Seigneur, sera donc gardée hors de l'heure de l'épreuve et non à travers l'épreuve. L'heure de l'épreuve est celle des jugements apocalyptiques qui frapperont les hommes après la venue du Seigneur. En vain s'efforceront-ils d'y échapper. Cette heure les atteindra où qu'ils se trouvent. Seuls les rachetés de Christ, enlevés à sa rencontre lors de sa venue, en seront préservés. Ils l'accompagneront lorsqu'il apparaîtra en gloire, ce qui prouve bien qu'ils auront été enlevés auprès de lui auparavant. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, que les saints ne soient pas appelés à souffrir sur la terre avant la venue de Christ. L'histoire de l'Église nous enseigne que nombreux sont ceux qui ont subi le martyre, et nous savons que la persécution sévit dans plusieurs pays. Elle pourrait sévir aussi dans nos contrées, si le Seigneur le permettait, sans parler des épreuves issues des jugements qui s'abattent sur divers pays, épreuves dont les chrétiens ont aussi leur part. Mais ces circonstances, si douloureuses soient-elles, n'ont rien de commun avec l'heure de l'épreuve dont il nous est parlé ici et dont l'Église sera gardée. Le Seigneur lit cette promesse à celle de son prochain retour.
« Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Verset 11.
Il fait revivre ainsi dans le cœur de ses bien-aimés l'espérance glorieuse de sa venue, ce qui est particulièrement propre à affermir leur foi et à attacher leurs cœurs à sa personne. Septièmement, nous arrivons maintenant à la dernière des sept assemblées, Laodicée, qui représente l'état moral de la chrétienté au temps de la fin. Glorification de l'homme, activité religieuse destinée à satisfaire la chair, aucune affection réelle pour Christ, mépris de sa parole qui n'a plus d'autorité sur le cœur, recherche de l'approbation du monde et de ses faveurs.
Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Versets 15 et 16.
Que chacun de nous veille afin d'être gardé d'un tel état d'esprit, fait d'indifférence et de formalisme religieux sans vie. Cette tiédeur s'accompagne d'orgueil spirituel.
Parce que tu dis « je suis riche » et « je me suis enrichi » et « je n'ai besoin de rien » et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Verset 17-18.
Tout en se croyant riches, les Laodicéens étaient pauvres, nus et aveugles. Pauvres, ils avaient besoin de l'or, symbole de la justice divine en Christ. Nus, il leur manquait des vêtements blancs, image de la justice des saints. Aveugles, il leur fallait acheter un collyre qui leur permit de recouvrer la claire vision de leur état moral devant Dieu et des exigences de sa sainteté. Et malgré tout, le Seigneur adresse également des paroles d'exhortation, pleines de grâce, à ceux qui se trouvent au milieu d'une telle ruine.
« Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Versets 19 et 20.
Ainsi le Seigneur reste fidèle, en dépit de la ruine générale de la chrétienté professante, et il encourage la foi individuelle qu'il y découvre. Mais cela ne modifie aucunement la sentence prononcée sur ce corps sans vie, il le vomira de sa bouche. Telle est brièvement l'histoire de l'Église considérée quant à sa responsabilité sur la terre. Si les trois premiers états qui sont décrits sous les caractères d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame comportent pour nous un enseignement historique et moral, les quatre derniers, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, ont en outre une portée prophétique, car ils subsisteront jusqu'à la venue du Seigneur. Malgré l'humiliante histoire de l'Église responsable ici-bas, les desseins de Dieu envers l'Église véritable s'accompliront entièrement. Avant même que la fausse Église soit vomie de la bouche de Christ, l'Église véritable, l'épouse de Christ, sera ravi à la rencontre de son époux. Quelle part glorieuse pour ceux qui appartiennent à cette Église, et quel hommage ne doivent-ils pas rendre à leur Seigneur? Hommage à toi, chef de l'Église, l'épouse, objet de ta faveur, à tes côtés bientôt assise, sans fin bénira son Seigneur. Ô Saint Transport, joie ineffable, nous jouirons de ta beauté, et de l'amour inexprimable qui remplira l'éternité.